Et aujourd'hui, à 13h30, à l'horizon de la marche de l'histoire, le rêve d'une démocratie qui serait vraiment le fait de tous, 31 mars, présence de la République fraternelle de 1848.
Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Un autre 19e siècle, la République à l'atelier.
Citoyens, mes amis, mes frères, la force aveugle qui nous écrase ne viendra pas à bout de notre idéal. Car notre idéal, au-delà de la République, c'est le bonheur des hommes. Citoyens, le 19e siècle est grand, mais le 20e siècle sera heureux.
Combien d'auteurs du 19e siècle imaginaient une histoire dessinée à l'avance? Hugo, on vient d'entendre un extrait des Misérables, pensait qu'elle était entre les mains de Dieu, dont le peuple était l'instrument. Les marxistes, qu'une marche irrépressible conduisait au progrès. La bourgeoisie, puis la classe ouvrière, y tenant chacune à leur tour leur rôle. Maintenant que l'avenir devient un peu illisible, le recours à l'histoire s'en trouve changé. Est-ce très utile de parler encore de « marche de l'histoire » comme on le fait ici tous les jours? Le grand philosophe allemand Walter Benjamin, quand il se réfugia à Paris pour fuir le nazisme, disait que le plus urgent c'était de sauver les traces alors que l'histoire occidentale de la liberté menaçait de s'effondrer. Maintenant que nous nous interrogeons sur les périls que court la République, il peut être utile de retrouver tout un écheveau de pratiques qui entretinrent sa flamme au long du 19e siècle. Le monde ouvrier croyait alors, dur comme fer, que la liberté politique devait être accomplie par la liberté sociale. Les hommes du temps de la République sociale et démocratique de 1848, les hommes et les femmes de la République de l'atelier et de l'association n'ont pas changé le système, mais maintenant qu'aucun système n'apporte plus l'espoir, leur pratique même inachevée ouvre soudain des perspectives.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Michel Riault-Sarcey, bonjour.
Bonjour.
Alors en exergue, c'était Victor Hugo, mais avant, en appel, c'était la voix d'Alphonse Dupron qui dit... Il faut savoir que le passé est là. Vous compléteriez la phrase en disant « le nouveau est dans le passé ».
Effectivement, je crois que le nouveau est dans le passé. Ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé. Or, il n'en est rien, et maintenant qu'il y a véritablement ce sentiment d'impuissance, cette impossibilité de penser une alternative, le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qu'on a manqué, sur ce qui a été oublié, et sur une série d'expériences, ah non pas massives, extrêmement minoritaires, extrêmement courtes, qui nous permettent de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
Aux éditions de La Découverte, vous publiez une histoire souterraine du 19e siècle, tissée à partir de ces expériences inachevées, souvent oubliées, et qui permettent peut-être d'aider à la transformation d'aujourd'hui. Le titre, c'est...
Le procès de la liberté.
Le procès de la liberté. Si vous voulez bien, on va, comme vous, tourner autour d'un moment clé, la révolution de 1848, qui n'est plus tellement connue aujourd'hui, mais en commençant par l'après, enfin juste après cette époque sombre pour la République, sombre pour les libertés, sombre évidemment pour le socialisme qui s'appelait le Second Empire, où la propriété était assurée et où la bourgeoisie était dans la certitude de l'accomplissement irréversible de ce progrès.
La période du Second Empire est assez bien connue. Beaucoup d'hommes politiques se penchent d'ailleurs sur le passé de Napoléon III, hommes politiques libéraux, et je crois qu'ils le font à juste titre parce que c'est incontestablement le triomphe du libéralisme. La révolution industrielle semble triompher, le progrès en particulier semble triompher, et pourtant les choses patinent.
Ce sont les libertés au service de l'industrie, avec quand même chez l'empereur le souci peut-être d'intégrer les masses ouvrières, comme on commence à dire, dans la vie politique.
Les masses ouvrières, il y pense parce que la situation est un petit peu difficile pour lui, la bourgeoisie ne semble pas tout à fait acquise comme il l'aurait souhaité, et il se penche sur le sort des ouvriers, enfin il se penche. La famille, de Napoléon se penche sur le sort des ouvriers.
Oui, parce qu'il y avait un prince, Bonaparte, tout à fait étrange, qui tenait un cercle qui était prolétarophile au Palais Royal.
Voilà, c'est ça. Et cette situation a laissé croire que pendant ce temps très court, l'empereur était très proche de la classe ouvrière, ce qui n'est pas, bien entendu. La situation des ouvriers à ce moment-là est peut-être un moment un peu de transition.
Inspiré du maître livre de Georges Duvau sur les ouvriers du Second Empire, un épisode de la Tribune de l'Histoire de France Inter, cet ouvrier, il est un, est-il représentatif du collectif ?
Dites-moi, savez-vous lire ?
Oui, je sais lire. Mais beaucoup de mes copains ne savent pas.
Et qu'est-ce que vous lisez ?
Oh, moi, ce qui me plaît, c'est la science pour tous. Ah. On y apprend beaucoup de choses, oui. Quelquefois, je lis un roman. J'ai lu aussi un livre sur les victoires de la Révolution et de l'Empire. Quelquefois, j'achète l'almanach. Ça peut être utile d'avoir ça chez soi, alors.
Et le journal ?
Oh non, 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 ça c'est trop cher. Mais au cabaret, il y a des copains qui m'en prêtent. Ça permet d'apprendre la vérité sur Badinguet et toutes les crapules qui l'entourent. Oui.
Et vous avez voté après le coup d'État du 2 décembre ?
J'étais jeune, mais j'ai voté.
Pour ou contre ?
J'ai voté oui. À ce temps-là, je pensais que l'empereur était pour les ouvriers et les paysans.
Et vous avez changé d'avis ?
Oui.
Pourquoi ?
À cause de tout ce qu'on raconte. Maintenant, je crois que c'est la République qui sera pour les ouvriers.
Badinguet, c'est le surnom de Napoléon III, plébiscité. Donc après son coup d'État, on employait le mot « copain », vous croyez, en 1862, à la date où est situé en principe cet enregistrement ?
Je ne suis pas certaine.
Est-ce qu'on employait déjà le mot « camarade » ?
Je ne crois pas non plus.
On devait parler d'association, on y reviendra tout à l'heure. Pour cet ouvrier, la République, c'est celle de 48, dont le souvenir est coriace.
Le souvenir est non seulement coriace, mais cette idée de République, elle participe de l'esprit de tous ceux qui souhaitent accéder à la liberté. Et cette liberté, elle n'est pas réduite au suffrage, bien que le suffrage dit universel ait été rétabli par Napoléon III, alors que la République bourgeoise, disons, la République modérée, avait limité considérablement ce suffrage universel.
Quand vous parlez de suffrage dit universel, c'est parce que vous voulez insister sur le fait que les femmes n'y étaient pas associées. Oui, la révolution de 48, rappelez quand même, février, elle est, nous dit-on, dans l'historiographie habituelle, fondée sur la revendication de l'élargissement du suffrage.
Elle est fondée sur la revendication de l'élargissement du suffrage, et ce sont la campagne, ce qu'on a appelé la campagne des banquets, les banquets parce que toute réunion collective était interdite, donc on avait trouvé ce subterfuge pour pouvoir se réunir et parler. Alors on croit que la révolution de février a été uniquement motivée par cette idée de suffrage.
Parce qu'on était avant au suffrage censitaire, limité à ceux qui payaient un impôt important. Mais non, l'idée c'était la République jusque dans l'atelier aussi.
C'est venu, je dirais presque automatiquement, à partir du moment où il y avait la possibilité de se penser libre, il était nécessaire d'imaginer une société qui permette à la totalité des individus d'être libres. Et il allait de soi que cette République, elle n'était pas simplement une République où on allait accorder les droits politiques, mais une République où les droits sociaux étaient aussi non seulement accordés, mais mis en œuvre.
Nous avons fait attention à votre observation que nous pressentions, nous allons donner la parole aux femmes de 1848. Un peu muette, Madame Dagout, Marie Dagout, qui a fait une très grande histoire de la Révolution de 48.
Daniel Stern.
Sous le pseudonyme d'un homme, Daniel Stern. Et Georges Sand, qui revendique, elle, son pseudonyme sans difficulté.
Georges Sand, c'est la victoire, Georges Sand. Notre victoire. La République sociale est faite.
Pour moi, qui tiens au peuple par le sang autant que par le cœur, c'est une grande joie, vous le savez. Je suis communiste, comme on était chrétien en l'an 50 de notre ère. C'est pour moi l'idéal des sociétés en progrès. La religion qui vivra dans quelques siècles.
Mais aujourd'hui,
je ne peux me rattacher à aucune des formules de communisme. Parce qu'elles sont toutes dictatoriales et croient pouvoir s'établir sans le concours des mœurs. Aucune religion ne s'établit par la force.
L'idéal de l'expression de la souveraineté de tous, ce n'est pas la majorité, c'est l'unanimité. Il y a des heures où l'unanimité se produit à la face du ciel et où la majorité ne compte plus devant elle. Si par le communisme, vous entendez Une conspiration disposée à tenter un coup de main pour s'emparer de la dictature? Non, nous ne sommes point communistes. Mais si par le communisme, vous entendez le désir et la volonté que, grâce à tous les moyens légitimes et avoués par la conscience publique, l'inégalité révoltante de l'extrême richesse et de l'extrême pauvreté disparaisse dès aujourd'hui pour faire place à un commencement d'égalité véritable, alors oui, oui, nous sommes communistes.
Une adaptation par Henri Spade à la télévision de la biographie de George Sand d'André Mauroy. Je suis communiste comme on était chrétien en l'an 50 de notre ère.
Oui, ça paraît un tout petit peu étonnant maintenant d'entendre cela, c'est-à-dire je suis communiste comme on l'était en l'an 50 de notre ère. Mais il faut comprendre que pendant ce moment-là, de 1848, il y a la nécessité d'imaginer véritablement un autre monde possible, et il n'y a pas de référence directe. Alors on va inventer cette référence directe et on va imaginer un christianisme primitif. Un christianisme primitif qui fait que, en 1848, on va parler du Christ des barricades, on va réinventer en quelque sorte l'histoire du christianisme, sécularisé, comme si il était inimaginable de penser une liberté complète qui comprenne la totalité du monde sans se référer à des droits absolument incontournables. Droits naturels, droits de l'humanité. Alors on va très loin, on essaye d'enraciner cette origine dans un christianisme, bien entendu, totalement réinventé.
Qui serait l'âge d'or, parce que pour les communistes de cette époque, le mot n'a pas du tout le même sens que plus tard. L'âge d'or n'est pas devant, il est derrière.
Oui, ça paraît un petit peu bizarre quand on sait qu'Henri de Saint-Simon, celui dont on a parlé à plusieurs reprises et ailleurs sur la question du socialisme et du socialisme utopique, Saint-Simon avait expliqué que désormais l'âge d'or est devant nous. Et je crois avoir démontré que plutôt que l'âge d'or était devant soi, c'est plutôt l'âge d'or est derrière soi. Et tout simplement parce que les révolutions, à mon sens, et d'après mes travaux, ne peuvent se faire et ne se font qu'à partir du moment où ceux qui entrent en révolution ont une conscience aiguë d'un manque. C'est-à-dire que l'histoire ne s'est pas accomplie, que les promesses ne se sont pas accomplies, que la liberté ne s'est pas accomplie. Et du même coup, on va donc réclamer l'accomplissement de ces promesses qu'on va enraciner soit dans l'histoire des hommes et le début de l'histoire moderne. Pour eux, c'est la révolution de 89, rupture définitive que aucun roi n'a pu contourner et rétablir. Et aussi, pour que les droits soient véritablement acquis, on essaye d'asseoir ces droits dans cette naturalité que l'histoire ne pollue pas.
Mais attention, l'accomplissement ne sera pas obtenu par la contrainte ni par la violence, c'est ce que dit George Sand, mais par une sorte d'unanimité construite.
Les propos de George Sand sur le communisme semblent extrêmement éloquents et il faut là relever le rôle de George Sand en 48, celui aussi de Daniel Stern qui a écrit un magnifique livre sur la révolution de 1848, largement pillé par les historiens pillés et qui sert de référence. Et ces travaux-là ont marqué l'historiographie de 1848. Et George Sand, lorsqu'elle est communiste, à la limite, ça n'est pas une exception. Elle est effectivement communiste au sens qu'on l'entend dans les années 1840. Ça signifie un partage, ça veut dire une solidarité. Le mot fraternité a un autre sens. Il veut dire effectivement fraternité, égalité, partage, au sens où il n'y a pas de leader particulier, il n'y a pas de bureau au sens où on l'entend ensuite lorsque la révolution de 17, et pas simplement la révolution de 17, lorsque le stalinisme va marquer son empreinte sur le communisme réel. Ce communisme-là est le communisme vrai, aurait dit Constantin Pécheur dans les années 49.
Mais la fraternité, mais le partage, butent contre le mur de la propriété. Je n'ai pas dit le mur de l'argent. On le sentait déjà bien avant la révolution de 1848, au moment de ces révoltes qui sont autant de préfigurations des journées tragiques de juin 48, les révoltes des canuts en 32 et 34.
Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les barbares ne doivent pas être au centre. La queue ne doit prendre la place de la tête, on disait ça au moment de la révolte des canuts. Et en juin 1848, même les anciens jacobins disaient « On ne peut pas s'attaquer à la propriété. » Elle réagit très violemment. Il y avait une commission au palais du Luxembourg, là où avaient siégé les pères qui s'occupaient du travail. Des ateliers nationaux avaient été ouverts. Ils sont fermés. Et c'est vraiment un moment terrible, juin 48, pour la République sociale et démocratique.
Oui, c'est un moment terrible qu'on n'a pas vraiment compris immédiatement après la répression de juin 48, qui a été absolument terrifiante et qui est, de fait, et là encore, de manière un peu détournée, mais formidablement décrite par Flaubert dans L'éducation sentimentale. Bien sûr, le texte est écrit bien plus tard, mais ce souvenir qu'a Flaubert reste, à mon avis, dans les mémoires. Cette répression est terrifiante. Et en même temps, personne ne comprend en apparence la révolte de juin 48 des ouvriers qui se sont soulevés sans l'aide des leaders, puisque ceux-ci ont été arrêtés au cours de la manifestation du 15 mai. Ça serait trop long d'expliquer cet événement. Il se trouve simplement que les ouvriers, pas plus d'ailleurs que les républicains qu'on a appelés les républicains de la veille, n'étaient vraiment représentés à l'Assemblée lorsque les élections sont intervenues en avril 48. Et c'est un tout petit peu le choc. On a fait, ils ont fait la révolution en février, ils ont cru possible de lier le politique et le social, ils ont pensé possible cette liberté puisque le droit au travail a été immédiatement voté dès février 48 et on a dit très rapidement, c'est-à-dire que dans le journal de Ledru Rollin, qui était ministre de l'Intérieur de 1848 du gouvernement provisoire, dans ce journal, il était clairement dit, désormais avec le suffrage universel, il n'y a plus de prolétaires en France. Comme si ce lien entre social et politique allait de soi. Et tout le monde, les journaux dans leur ensemble, qu'ils soient républicains de la veille ou républicains du lendemain, croyaient à la République et croyaient à la victoire de cette République. Seulement, cette République, c'est pas tout à fait celle à laquelle voulaient croire les ouvriers. Et ils se sont sentis, dirait-on aujourd'hui, floués, trahis en quelque sorte, parce que leurs espoirs n'étaient plus là. La situation économique était particulièrement grave. Et donc, les ateliers nationaux ont été fermés et du même coup, le droit au travail était mis en cause, le chômage était particulièrement important et la révolte est immédiate. Les responsables ouvriers, Blanqui et autres, sont arrêtés avec le 15 mai, puisque ceux-ci avaient voulu réclamer leurs droits au nom de la souveraineté, puisqu'ils n'étaient pas représentés. Ça veut dire que la classe ouvrière ou les ouvriers parisiens étaient seuls, et l'insurrection est immédiate. Une insurrection radicale, une insurrection qui ne demande pas de complément, qui est immédiate. Cette insurrection que les grands ne peuvent comprendre, Victor Hugo ne comprend pas cette insurrection, par exemple, et la répression à ce moment-là s'abat. Alors je ne sais pas si la répression s'abat parce que la propriété a été touchée, mais on a peur de cette insurrection des masses qui réclament leurs droits au nom, plus que leurs droits, qui réclament la mise en œuvre de leurs droits au nom d'une liberté qui signifie le pouvoir d'agir. Et donc le pouvoir pleinement citoyen. Personne ne comprend. Et ensuite, on va très vite interpréter juin 48 comme l'équivalent d'une guerre civile. Et on a dit que les ouvriers se battaient contre eux-mêmes, puisqu'ils donnent l'impression de se battre contre la République. Ils ne se battent pas contre la République, ils se battent pour obtenir la vraie République.
Michel Riault-Sarcey, vous expliquez dans votre histoire souterraine du 19e, Le procès de la liberté, c'est un livre aux éditions de la Découverte, que néanmoins, le débat continue et qu'on va discuter pendant des mois et des mois dans les ateliers, mais aussi encore à l'Assemblée nationale, de cette distinction qu'il faut abolir entre la liberté sociale et la liberté politique. Sans liberté sociale, la liberté politique peut-elle être accomplie? Je vous propose d'écouter un extrait de la restitution que nous avons faite avec des comédiens français. Tocqueville, ici, va être interprété par Michel Vuillermoz, d'un débat qui a eu lieu en septembre 48, trois mois après les événements que vous évoquez. Lamartine répondra ensuite.
Et quoi, messieurs? Tout ce grand mouvement de la Révolution française n'aurait abouti qu'à cette société que nous peignent avec délice les socialistes, à cette société réglementée, réglée, compassée, où l'État se charge de tout, où l'individu n'est rien, où la société agglomère en elle-même, résume en elle-même toute la force, toute la vie, où le but assigné à l'homme est uniquement le bien-être? Quoi? Ce serait pour cette société d'abeilles ou de castors, pour cette société plutôt perfectionnée d'animaux, que d'hommes libres et civilisés, que la Révolution française aurait été faite. La démocratie étant la sphère de l'indépendance individuelle, le socialisme la resserre. La démocratie veut l'égalité dans la liberté, et le socialisme veut l'égalité dans la gêne et la servitude.
Et comme promis, Lamartine, c'est Michel Favori dans notre restitution.
Chaque époque a son œuvre, son devoir. Chaque époque a sa mission, écrite dans son origine. 1789 a eu sa mission. Cette mission, c'était d'extraire de son abaissement, c'était d'élever au rang de puissance politique le tiers-État. Votre mission, celle de 1848, c'est d'élever, d'extraire, d'inaugurer, de régulariser non plus seulement une classe de la population, mais le peuple tout entier.
La vraie liberté, elle n'existe pas, elle ne concerne qu'un 1/30 de la population. Aujourd'hui, on nous dit il y a 20% des Français qui tirent parti de la mondialisation. Mais oui, mais les autres, c'est une question qui se posait déjà à Constantin Pécœur, à Pierre Leroux, à tous ces penseurs de 48 que vous évoquez, Monique Riault-Sarcey.
Oui, alors ce qu'on vient d'entendre là, on dirait aujourd'hui que c'est un discours et un combat idéologique. 48 n'est pas tout à fait réduit à cela. Lorsque Tocqueville parle de critique en disant que désormais l'État va se charger si le socialisme, etc., etc., c'est une vision, je dirais presque prémonitoire de l'État-providence ou de l'équivalent ou du socialisme réellement existant. Ce que les 48ards ou ceux qui croyaient à la République démocratique et sociale demandent, c'est tout à fait autre chose. Et c'est ce qui va être mis en place, les associations, c'est-à-dire, comme l'appelait Pauline Roland, le gouvernement direct des travailleurs. Et ce gouvernement direct des travailleurs, c'est l'organisation collective où liberté individuelle et liberté collective sont étroitement liées à la manière de ce que disait et ce que pensait Constantin Pécœur. On a oublié qui était Constantin Pécœur lorsqu'il écrit, notamment dans les années 1800 après 48, 1848-1850, le Salut du peuple. Il définit le communisme à peu près identique à la fraternité. Le socialisme, c'est à peu près semblable. Et il insiste beaucoup, il n'y a pas de progrès sans liberté. Et il n'y a pas de liberté individuelle sans liberté collective. Il n'y a pas de liberté collective sans liberté individuelle, à condition, dit-il, que cette liberté individuelle soit accompagnée de responsabilités. Nous sommes très très loin de ce que l'on croit être le communisme, et c'est la raison pour laquelle il faut revenir au communisme des années 1840 pour comprendre ce que autonomie veut dire, ce que organisation veut dire dans les associations où les individus se prennent en main et prennent en main la production, la consommation, réfléchissent ensemble sur ce qu'il faut faire. Alors bien sûr, il s'agit d'expériences, on ne discute pas plusieurs mois, hélas. Il s'agit d'expériences, de prémices, d'idées fondamentales émanant de quelques-uns qui réussissent à convaincre, parce que la situation économique est très grave, réussissent à convaincre des associations. Et il se trouve qu'en 49, 105 associations sont coordonnées par quelques-uns, dont une femme, Jeanne de Rouen. C'est étonnant d'imaginer possible cette liberté spéciale qui fait que des femmes peuvent être partie prenante d'une organisation sans avoir le droit politique. Et Jeanne de Rouen va même se présenter aux élections partielles en 1849. Et cette exceptionnalité, ce monde qui nous est aujourd'hui étranger parce qu'on a oublié ce que liberté veut dire et ce que autonomie veut dire, nous éclaire, je crois, sur notre situation présente, peut nous donner quelques informations, quelques leçons, si je puis dire, dans notre présent, éclairer notre présent.
Alors, beaucoup d'intellectuels de gauche, vous devez l'être, à vous entendre, Michel Oriot-Sarcey, on le sent, sont un peu désarçonnés par ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils étaient habitués à une vision sédimentaire de l'histoire qui allait constamment vers un mieux. L'histoire du mouvement ouvrier, elle était construite de cette manière-là. Vous êtes difficilement entendu par ceux qui sont comme tétanisés par l'inversion que nous vivons actuellement, davantage entendue par les jeunes.
Oui, je crois que les jeunes entendent davantage, non pas mon discours, mais cette idée qu'il faut s'auto-organiser puisque les politiques ont failli dans leur ensemble. Aucune alternative n'est pensable à l'heure actuelle, n'est envisageable. On essaye de bricoler le politique ancien, mais on s'y perd. On s'y perd tout simplement parce que on a oublié ce que démocratie veut dire. Et démocratie veut dire que on ne peut organiser une république qu'à partir du moment où la grande majorité est partie prenante de cette république. Et cette grande majorité doit accéder à la liberté. Et la liberté, disait Pierre Leroux, c'est le pouvoir d'agir pleinement, donc matériellement, intellectuellement, politiquement. Ça veut dire qu'il faut redonner la possibilité d'intervention au sens fort du terme à tout le monde.
La perfection de la société est en raison de la liberté de tous et de chacun. Pierre Leroux.
C'est un énorme défi et qui doit être entendu par les politiques, parce que cette démocratie telle qu'elle était envisagée, telle qu'elle était imaginée en 1848, puis en 1871 et ailleurs, telle qu'elle était espérée, n'a pas été mise en œuvre. Et je crois que cette mise en œuvre, elle est d'actualité.
Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle, c'est la référence que nous pouvons conseiller. Livre aux éditions de la Découverte, publié par Michel Oriot-Sarcey. À la technique, Anne-Laure Cochet, la réalisation, c'était Jacques Sigal, et la préparation, Frédéric Martin.